Vous écoutez
RMC. RMC, l'After Live.
Karine Galli.
Bonsoir à tous, bienvenue sur RMC. Oui, on l'attendait, ça y est, nous sommes le vendredi 21 août et c'est la reprise de la Ligue 1. Notre championnat préféré, celui qu'on attendait depuis de longues semaines est de retour. Et ce match, ça sera Marseille-Strasbourg pour débuter la saison de Ligue 1. À mes côtés, comme l'an dernier, un duo qui fonctionne, Lionel Charbonnier, bonsoir.
Salut ma Karine, t'as passé de bonnes vacances ?
Écoute, j'ai passé de très bonnes vacances, mais elles étaient trop courtes. Tu sais, c'est toujours trop court les vacances, c'est ça le problème.
Et salut toi, à tous.
Tout s'est bien passé ?
Oui, moi j'ai pas été en vacances, sauf le vendredi.
Ah bon ?
Ouais, j'ai travaillé samedi, dimanche.
Mais dis donc, quel homme consciencieux.
Non.
Ah, c'est que t'avais pas le choix ?
Ouais.
Eh bien, en tout cas, on
mais
est...
Mais je me suis fait plaisir.
Ah, mais c'est le principal. On est heureux, c'est le retour de la Ligue 1. Vendredi 21 août, championnat 2026-2027, c'est parti. Et direction le Stade Vélodrome ce soir pour l'ouverture de ce championnat. Marseille reçoit Strasbourg. On va retrouver nos duos de commentateurs ce soir. Ça sera avec Florent Germain et Maxime Tilliette. Bonsoir.
Salut Karine, salut Lionel, bonsoir.
Salut Max.
Bienvenue au Vélodrome pour cette grande première.
Salut Flo.
La reprise du championnat, on a hâte, on avait hâte que ça démarre. Flo est avec nous.
Salut les amis, salut à tous.
Ce grand rendez-vous après une grande Coupe du Monde.
J'ajustais le casque.
Une première journée de Ligue 1 qui. Ça fait plaisir, elle nous avait manqué hein, cette Ligue 1 et on a les compos surtout qui viennent de nous arriver. Ça tarde un petit peu parfois du côté de l'Olympique de Marseille. On avait eu la compo strasbourgeoise depuis déjà quelques minutes. Mais Flo, tu peux nous dévoiler cette compo marseillaise sans surprise particulière.
Maxime, t'es trop pressé. Moi, je veux tout savoir. Je veux l'ambiance. Attendez, c'est le retour de la Ligue 1. Marseille a vécu une saison cauchemardesque. C'est l'été. Donc, est-ce qu'on est à guichet fermé ? Est-ce que l'ambiance est belle ? En tout cas, au niveau des supporters, ils sont encore au rendez-vous parce que les abonnements, c'est à nouveau un carton, Flo.
Oui, alors c'est un petit peu moins quand même que la saison passée. Non, ce n'est pas le chiffre officiel, c'est 40, un petit peu moins de 41 000.
Alors on me ment parce que j'ai lu ça ce matin.
Ah ben voilà. Je sais, oui, mais il faut toujours surveiller les lectures, Carrie. donc on est entre 40 et 41 000 chiffres publiés par l'OM, à savoir 25 000 pour les virages et un peu plus de 15-16 000 pour les abonnés en tribune. Donc il y a eu, pas un désamour, mais pour les tribunes, un petit peu moins de réabonnement. Ça c'est la vérité quand je dis des tribunes, les tribunes latérales, hein, Ganet et Jean Boin. En revanche ça bouge pas, c'est toujours la course à celui qui va avoir le fameux sésame, à savoir la carte d'abonné, parce que je rappelle que les prix sont très corrects pour assister à toute la saison en virage, Ligue Europa incluse. On est quand même à 250 euros, c'est-à-dire que vous mettez un chèque de 250 payable en 3 fois voire en 10 fois je crois, et vous avez tous les matchs de la saison, Coupe de France et Coupe d'Europe incluse.
Donc c'est pour un vrai avoir bon le prix, faut le dire.
Voilà, bah oui, non, mais ça fait partie des clubs Marseille qui, par rapport aux grosses ambiances européennes ou aux bons ou très bons clubs européens, je pense les tarifs les plus bas pour ce qui est des virages. Donc c'est
l'ADN. Même les matchs de Coupe d'Europe.
Ouais, mais l'année dernière c'était un petit peu plus cher, très légèrement, mais avec la Ligue des Champions incluse. Ouais. Donc malheureusement l'OM avait aussi inclus un barrage, sauf qu'il n'a jamais eu lieu. Donc les groupes de supporters se sont bien empressés de le signaler. Bon bref, on va pas revenir sur les petits tracas des coulisses, mais effectivement ça reste un beau chiffre et surtout le guichet fermé de ce soir, Karine, Lionel, qui prouve bien malgré la crise financière que traverse le club. La crise de gouvernance aussi avec de nombreux départs, la nécessité de vendre, les supporters ils ont envie de se prendre au jeu et surtout ils restent amoureux de leur club, pas du logo puisque là on voit une banderole non au nouveau logo, mais en tout cas ils sont amoureux encore de leur club et donc ça se confirme avec 65 000 personnes donc ce soir, guichet fermé plus environ 900 supporters strasbourgeois.
Magnifique, donc un guichet fermé pour la saison du rachat parce qu'évidemment les Marseillais ont déçu la saison passée, ça a été une saison chaotique avec beaucoup de départs. On rappelle que Marseille finalement a terminé 5e, alors que l'objectif c'était la Ligue des Champions. En face, il y a Strasbourg qui a été 8e. Ça s'est pas bien passé en championnat, mais en Coupe d'Europe, ils ont quand même atteint la demi-finale de la Ligue Conférence. Alors messieurs, les premiers choix, la première journée. Deux nouveaux entraîneurs, Bruno Genesio d'un côté, on a Oliveira de l'autre. Dites-nous tout sur les compositions d'équipe et sur les choix de Bruno Genesio. On en parlera après, on détaillera, parce que de toute façon, il y a beaucoup, énormément de joueurs qui sont partis des deux côtés. Le 11 de départ marseillais avec toi, Flo.
Oui, comme l'a dit Max, bah, y a pas de surprise par rapport à ce qu'on a pu annoncer depuis hier soir et ce matin également dans nos confrères de la presse écrite, avec Geoffrey Delang dans le but, donc qui va endosser Lionel ce rôle d'éventuel titulaire pour la saison. On verra si ça bouge et si un gardien est amené à arriver, mais en tout cas s'il réalisait de bonnes performances sur les matchs officiels.
Oui, il a été bon l'an dernier.
Ça va effectivement. Il a eu des matchs compliqués, hein. Par exemple au Parc, c'était pas un cadeau, je pense, d'être titularisé pour se prendre la manita face au PSG. Bon, Geoffrey Delang dans les buts. La défense avec à droite Timothy Weah, à gauche Emerson Palmieri. La chaîne centrale, ce sera avec Geoffrey Kondogbia et donc CJ Egan Riley, titularisé le jeune anglais qui n'a pas trop eu sa chance à vrai dire la saison passée, qui parfois l'a eu et il n'a pas été convaincant. Il est titulaire ce soir. Au milieu de terrain, Imad Abdelli, Angel Gomez et Pierre-Emile Højbjerg. Weah est capitaine à nouveau, il faut le préciser, hein, donc Højbjerg a véritablement été déchu de ce statut de capitaine. Et pour le trio offensif, Igor Ipaichao, Amin Harit et Amin Gouiri. Ce sont les trois hommes, le trio qui était attendu pour composer l'attaque marseillaise.
Et Maxime, compo, on va découvrir avec toi Strasbourg. Effectivement, tu rentres de Pologne et t'es au Vélodrome, tu es partout.
C'est le régal, c'est le fou, ça reprend enfin cette saison de ce championnat de France, avec donc cette première composition en match officiel sur le banc des Strasbourgeois pour Hugo Oliveira. On aura le temps de parler de son parcours au nouvel entraîneur portugais du côté de Strasbourg, qui a vu son effectif être quand même bien remodelé, avec plus de 170 millions de ventes réalisées pour le moment par les dirigeants strasbourgeois. Et donc dans ce 11 de départ, il n'y a finalement que trois nouvelles têtes, deux joueurs prêtés par Chelsea et un milieu de terrain arrivé du Portugal. On va détailler cette composition en 4-2-3-1, avec donc Philippe Jorgensen, le gardien qui était à Chelsea et il y a encore de cela quelques semaines, qui a notamment disputé le 8e de finale au Parc des Princes, le 5-2 face au Paris Saint-Germain. Il est désormais prêté et perpétue la tradition des gardiens prêtés par Chelsea après Petrovic et Penders. C'est désormais Jorgensen qui va garder les buts strasbourgeois. La défense à 4 avec de droite à gauche Genesi Santoui, lui aussi prêté par Chelsea. La charnière avec Omo Babidele et Oxberg, plus Guéladoué qu'on annonce plutôt latéral gauche ce soir, en l'absence de Chilwell notamment. Au milieu de terrain, Samir El-Mourabet est toujours là, associé à Diogo Souza, la troisième et dernière recrue de ce 11 de départ. Et donc les trois milieux offensifs en soutien de l'attaquant de pointe, c'est Kumara. Il s'agit de Sébastien Nanasi en numéro 10 et sur les ailes Guessim Yassine et Sam Amo Ameyo.
Voilà pour les choix donc des nouveaux entraîneurs. On rappelle, du côté de Marseille, place à Bruno Genesio. Du côté de Strasbourg, c'est Hugo Oliveira qui a pris les commandes du Racing. On va s'intéresser à Marseille. Est-ce que vous craignez un OM sans ambition? Parce qu'on rappelle que Marseille doit vendre. Marseille a beaucoup vendu, et notamment Bruno Genesio, il a été interrogé, c'était fin juillet, sur les objectifs marseillais. Il n'avait pas voulu trop se mouiller. On écoute le nouvel entraîneur.
Podium top 4, non, mais j'ai parlé d'Europe. Je sais que ça a pu être mal interprété, mais l'Europe, ça va de la première place à la sixième, voire à la septième. Donc quand je parle d'Europe, ça ne veut pas dire que je me cantonne à la petite, entre guillemets, Coupe d'Europe. On va faire du mieux qu'on peut, mais je crois que Marseille doit être européen, quelle que soit sa situation financière. On parle d'ambition, c'est un club où on se doit d'être européen chaque année et forcément d'essayer d'aller jouer le plus haut possible.
On en débat tous ensemble. Lionel, on rappelle, des départs majeurs. Le meilleur buteur du club, Greenwood, est parti. Le deuxième meilleur buteur du club, Aubameyang, est parti. C'est ce qui avait marqué les esprits l'an dernier. Facundo Medina est parti. Rulli est parti. Il y a des prêts également qui se sont terminés, notamment comme Pavard. On sait qu'il y a énormément d'options encore sur certains joueurs. On ne sait pas si Pachao sera là. On ne sait pas et si Amina Harit sera là. De toute façon, tout le monde est à vendre. Est-ce que tu crains un OM sans ambition cette saison? Non. On entend Bruno Genesio, il nous dit entre la première et la septième place, c'est large.
Ouais, mais non, de toute façon, quand tu parles de l'OM, l'OM se doit toujours d'être ambitieux. Donc moi, ce qui me fait un peu plus peur au jour d'aujourd'hui, c'est les joueurs qui, c'est pas ceux qui sont partis. c'est
il y en a pas qui sont arrivés, c'est ça le problème.
Non, mais c'est surtout ceux qui doivent partir et qui peuvent quitter cette équipe titulaire. Parce que là, il y a Guiri qui est titulaire, qui peut partir. Il y a Pachao qui est titulaire, qui peut partir. Il y a Harry, enfin, ils peuvent tous partir.
Oui, Hubert, tous. Ouais,
c'est ça qui m'interroge un peu plus, moi. Parce que derrière, quid de l'équipe future? Parce que là, tu fais un travail, tu commences la saison avec un effectif, mais tu sais pas si dans 3 semaines, tu auras encore le même effectif. C'est ça qui me fait le plus peur. Ceux qui sont partis, même s'ils brillent ailleurs, c'est pas trop le souci. Après, je pense qu'il va y avoir des recrues, bien évidemment, s'ils arrivent à vendre les joueurs. Mais moi, je pense que ça commence tellement mal pour l'OM que ça peut très bien finir cette histoire.
Alors Flo, à l'inverse de l'an passé.
Flo, tu connais
arrivé des joueurs sur la pelouse d'ailleurs, hein, juste pour la petite carte postale avec des applaudissements et pas mal de supporters debout, des chants qui descendent des tribunes. C'est pas encore plein du tout parce que c'était vraiment galère pour accéder au Vélodrome. Il y a eu beaucoup de bouchons et une circulation totalement saturée, mais il y a quand même une bonne ambiance. Ça, c'est important de le signaler aussi dans la quête d'objectifs. Vaut mieux avoir le public avec soi.
Effectivement, et on se souvient de ce qui s'est passé notamment après la première boulette du pauvre Balerdi face à l'Atlético de Madrid, où les supporters à nouveau l'ont pris en grippe lors du match de préparation. Flo, tu connais parfaitement l'OM. Est-ce que ça s'est déjà vu qu'un vendredi 21 août on n'ait aucune recrue à l'OM? Est-ce que ça veut dire que Marseille ne va pas avoir réellement d'ambition? L'an dernier, on rêvait de titres, on rêvait de titiller le PSG. Là, cette saison, on ne sait pas à quoi s'attendre.
Tu peux pas, là.
Bah écoute, après ce sont deux choses différentes. C'est-à-dire que qui est zéro recrue, ça c'est factuel.
Mais c'est inquiétant.
C'est vrai qu'il y a eu... Oui, bah inquiétant.
Mais c'est pas ce qu'ils peuvent pas, c'est par la force des choses.
Moi, je suis plutôt à 100% sur ce que dit Lionel. L'inquiétude, c'est surtout de savoir quel effectif tu auras fin août et savoir si tu vas pouvoir garder des joueurs qui là sont plutôt en forme et sur lesquels Bruno Genesio compte parce qu'il veut garder Paichao, il veut garder Guiri, il aimerait garder Timothy Weah, il veut éventuellement garder Aguerd si possible.
Harit,
même si le salaire est très élevé. Donc Bruno Genesio, malgré ses déclarations concernant le capitanat, il est conscient que s'il y avait une offre d'ici fin août, il faudra libérer Pierre-Emile Højbjerg. Donc ce qui inquiète le plus Bruno Genesio, c'est cela, parce que quand on regarde l'effectif actuel, je le disais tout à l'heure, on était avec Lionel à l'antenne, si aujourd'hui Bruno Genesio avait la garantie qu'il a cet effectif, aller à une ou deux exceptions près, je pense qu'il signe. Après évidemment il faudrait que les deux exceptions ne concernent pas et Paichao et Guri, parce que là le secteur offensif en prendrait un coup, mais c'est plus cette sensation qu'à tout moment et surtout en fin de mercato, un gros se réveille, fait le chèque et c'est terminé, et du coup tu es totalement désemparé. Donc c'est plus ça, je pense, qui est inquiétant que de la capacité à recruter. J'ai envie de dire, si les supporters se sont plaints pendant des années, souvent à juste titre, qu'il y avait trop de mouvements à Marseille, bon bah là il y a une certaine stabilité qui, par la force des choses, avec quelques retours de prêt, s'est installée, et au final ils vont au moins savoir quel est l'effectif, et c'est ce que veut Bruno Genesio. Lui, il veut savoir où il va, et pour le moment même lui en tant qu'entraîneur et patron entre guillemets du sportif avec Grégory Lorenzi, ils ne peuvent pas encore affirmer qu'ils vont avoir tel ou tel effectif pour batailler sur des objectifs.
Il y a un flou évidemment, parce qu'on sait qu'à Marseille il faut vendre après la saison ratée l'an passé. Flo, est-ce que la petite musique de l'OM revanchard monte? Parce qu'on a lu il y a quelques jours, par exemple, Mathieu Valbuena, champion de France 2010, dans les colonnes de La Provence, qui disait, voilà, moi j'ai tout vécu à Marseille, le meilleur comme le pire, et lorsque parfois on nous prévoyait le chaos ou une saison galère, eh bien on était en capacité de surprendre et de réussir. Quand on n'attend pas Marseille, Marseille est au rendez-vous. Est-ce que les supporters s'accrochent à ça?
Écoute, les supporters, en tout cas, je pense que quand tu as la conviction que ça va être une saison de galère, moins tu en attends, plus tu as de chance au final d'être agréablement surpris. Donc c'est plutôt en ce sens que dans un club qui parfois on va dire a du mal à supporter une certaine pression ou d'être sur le devant de la scène, bon, ce qui va être encore le cas malgré l'effectif qui sera amoindri, hein. On va pas refaire l'attrait médiatique qu'à l'Olympique de Marseille, et quoi qu'il arrive, Marseille va faire parler, il y aura de la pression, ça va pas devenir un club dont on se fiche totalement et qui fera pas la une des journaux, enfin ça
c'est
sûr et certain. Donc voilà, c'est dans l'ADN aussi de ce club, mais c'est vrai que on a vu des des saisons, Elie Baupe notamment, après les années des champs, l'après Bielsa a été un petit peu plus difficile, mais parfois il y a eu des galères Ligue des Champions, et au final une saison où tu te reconstruis, et il y a effectivement, comme le disait Mathieu Albuena, moins de pression, et au final des joueurs aussi qui veulent montrer et prouver qu'ils avaient vécu une saison galère, mais que c'est pas forcément ce qui correspond à leur qualité. Et je pense qu'effectivement, tu parlais de terme revanchard, il y a des joueurs de qualité. Enfin, prenez un Angel Gomez, il a envie de prouver que on n'a pas été patient avec lui. Prenez un Abdelli, il veut prouver que les quelques semaines qu'il a montré reflétaient pas son vrai niveau. Heubier, s'il était amené à rester, il va vouloir prouver que il a bien fait de faire ce choix là. Pai Chao doit aussi montrer que si c'est la plus grosse recrue de l'histoire de l'OM, c'est pour quelque chose. Enfin tout le monde a des raisons sur le papier d'être revanchard par rapport à la saison passée. Donc dans un contexte où les supporters, je pense, seront un petit peu plus patients. Enfin, seront patients et me faites pas le tableau d'un vélodrome intransigeant jette.
À chaque fois, on dit que
Marseille. Mais ça, c'est faux, mais c'est un cliché, ça.
Mais non, mais justement, l'an dernier, on a dit que les supporters avaient été patients. On n'a pas du tout.
Ben voilà, mais on est d'accord, alors.
Okay. Et est-ce que j'ai dit l'inverse à l'antenne?
Non, je croyais que tu allais aller sur ce tableau-là.
Ah bah non, enfin, Flo, on l'a dit.
Pas toi, pas maintenant, qui arrive pas après tout ce que tu as dit. Oui, non, mais exactement. Mais même depuis des années, c'est pour ça que je m'en porte un peu, c'est que on dit trop souvent, ouais, mais à Marseille, c'est compliqué, le Vélodrome est impatient, etc. Mais ça fait des années, en finale, que les supporters marseillais, au final, bon, oui, il y a eu les incidents de la commanderie, mais bon, ça commence un petit peu à dater aussi, et on peut les regretter par rapport à la violence et à l'image que ça a donné. Enfin, c'est pas à refaire, hein, évidemment. Mais honnêtement, les Marseillais, l'OM, jouent dans un environnement qui est globalement très très positif. Il n'y a pas d'hostilité. De temps en temps, une petite banderole, bah oui, c'est Marseille, c'est un club particulier. Donc effectivement, les joueurs viennent aussi pour ça, pour ressentir un peu d'électricité dans l'air. Même Lionel, souvent, on en rigole, lui dit qu'il adorait, qu'il avait les poils quand il arrivait au Vélodrome, parce que parfois c'est chaud. Donc ça, on peut pas l'enlever à Marseille. Mais honnêtement,
c'est Marseille, c'est l'ADN, voilà, c'est comme ça.
Depuis plusieurs saisons, l'ambiance, elle est positive. Elle est pas, c'est pas un enfer de venir jouer sous le maillot marseillais. Donc,
mais surtout. Je pense, Flo,
je pense que la patience sera encore au rendez-vous.
Surtout, je pense, Flo, alors je sais pas ce que t'en penses, si t'es d'accord avec ça, mais depuis que les Marseillais ont accepté, entre guillemets, la suprématie du PSG, c'est-à-dire que bon, voilà, les autres, ils sont dans une autre catégorie, tout ça, et donc on est devenu, avant, c'était, tu pouvais encore les battre là, oui, sur une année, sur un match, oui, tu peux le faire, le PSG, le classico restera le classico, il n'y a pas de souci. Mais sur, les Marseillais connaissent très bien le foot, ils sont suffisamment, ancrés dans le. Ils ont suffisamment ce sang de footeux pour savoir que maintenant, ok, le PSG est inaccessible, et donc derrière, eh ben, ils connaissent aussi que ils savent aussi reconnaître que cette équipe, eh ben, il faut un peu de patience, un peu tout ça, ce qui n'empêche pas d'avoir du caractère, de l'envie. Tu peux avoir de la patience, mais d'avoir beaucoup de caractère pour gagner au Vélodrome, de mettre de l'ambiance, de mettre de l'envie, de mettre tout ça. Ça, c'est pas. Des fois, on confond un peu tout, quoi.
Exactement. Et d'ailleurs, les supporters, si vous faites un petit sondage, ils vont préférer voir des jeunes être lancés et qu'on leur laisse une certaine chance que d'avoir des énièmes recrues qui vont partir dans 6 mois ou 1 an, comme on l'a trop vu ces dernières saisons. Donc ces difficultés financières doivent permettre normalement à certains joueurs, alors je vous dis ça à petite dose, hein, mais s'il y en a 3, 4, 5 dans la saison, ce sera déjà une bonne chose, et ce sera déjà assez rare par rapport aux saisons précédentes. Et là, je vous garantis que les supporters auront cette patience-là et seront derrière l'équipe, derrière les jeunes, derrière ceux qui étaient en difficulté. Après, il y a l'exception, peut-être Léo Ballardi, mais ça, c'est un peu différent. On pourra aussi en reparler. Bon, il n'est pas là aujourd'hui, touché au mollet. J'ai l'impression que
on a
atteint peut-être un point de rupture, mais à la limite, j'ai envie de dire peut-être que même pour Léo Ballardi, les supporters vont s'il reste et qu'il se bat, vont peut-être également revoir leur copie, on aura peut-être un petit peu moins de
succès. Après, c'est pas le même public du Vélodrome sur les journées de championnat que lors des matchs, des rencontres estivales.
On va continuer d'en parler évidemment, messieurs, avec Marseille, Strasbourg qui lance cette saison de Ligue 1. Il y a la Ligue 2 également avec la troisième journée. Ça joue sur 5 pelouses. Corentin Roland, bonsoir.
Bonsoir Karine, bonsoir à tous. Oui, avec déjà 2 buts marqués. Le premier très tôt dans ce multiplex a été marqué par Damien Durand. 1-0 pour le Red Star sur la pelouse de Boulogne. Le deuxième a été marqué par Sochaux qui mène 1-0, qui a marqué son premier but pour son retour en Ligue 2 face à Guingamp. Les Sochaliens ont manqué un pénalty à l'instant, mais il y a donc 1-0 face à Guingamp pour le reste. 0-0 entre Clermont et Dijon, 0-0 également entre Dunkerque et Montpellier, et entre Pau et Nancy. On joue la 20e minute de jeu sur les pelouses de Ligue 2 pour cette troisième journée.
Vous êtes sur RMC, la Ligue 1 reprend aujourd'hui et on va vous faire vivre le match en intégralité. Marseille-Strasbourg, ne bougez pas dans quelques instants. Est-ce que la direction a eu raison d'enlever le brassard à Hojbjerg? On attend vos réactions au 32-16, mais aussi sur le WhatsApp RMC 06-12-424-424. A tout de suite.
RMC, l'After Live.
Karine Galli. 20h22 en direct sur RMC dans le studio Roland Courbis pour la reprise de la Ligue 1 cette saison 2026-2027 que vous vivrez évidemment en intégralité sur RMC avec ce Marseille-Strasbourg. Lionel Charbonnier à mes côtés. On parle évidemment de la saison du rachat pour les Marseillais. Cinquième l'an dernier, ça a été le chaos, changement de direction. Du côté de Strasbourg également, il y a eu beaucoup de déceptions en championnat parce que en Ligue Conférence, ça a été réussi. On va tout de suite retourner au Vélodrome avec Florent Germain et Maxime Tilliette. Messieurs, on va parler de la décision prise par la direction. On vous rappelle ce qui s'est passé pour ceux qui l'auraient manqué. Le 14 août dernier, il y avait le match amical face à l'Atlético de Madrid et Hojbjerg, qui avait eu le brassard pendant la préparation, se retrouve privé de brassard. Pourquoi ? Parce qu'il a quitté, il a refusé de quitter l'OM pour Newcastle et cette décision n'avait pas plu à Genesio. On écoute ce que l'entraîneur marseillais avait dit après le match.
C'est une décision qui m'a été dictée par la direction du club. Si je veux être complètement franc, et je vais l'être, c'est pas une décision que je partage, mais je suis salarié, je dois me soumettre à certaines obligations.
On sent qu'il y a de la friture sur la ligne, en tout cas que les différents partis côté marseillais ne sont pas exactement sur la même longueur d'onde. On écoute maintenant ce qu'a dit Bruno Genesio il y a 2 jours. Il est revenu sur ses propos.
J'ai pas dit en désaccord, j'ai dit que je ne partageais pas ma décision. Pas tout à fait pareil. Et le message, il n'y en avait pas forcément à transmettre, ni à ma direction, ni à qui que ce soit. Mais c'était ce que j'avais envie d'exprimer, parce que c'est la vérité. Tout le monde a bien compris ce que j'avais envie de dire et pourquoi je l'ai dit à ce moment-là. Je comprends plein de choses, hein. Je suis entraîneur. Quand on est entraîneur, aujourd'hui, on n'a pas que ça. On a aussi la situation financière du club à prendre en compte, le contexte du club, il y a plein de choses qu'on doit prendre en compte. Mais on a aussi des convictions, des façons de fonctionner, j'allais dire qu'ils ne sont pas négociables, c'est peut-être un peu fort, mais ils doivent rester prioritaires.
Lionel, Bruno Genesio est revenu sur ses propos, mais au final, son avis et ce qu'il ressent, c'est exactement la même chose. Là, c'est de la sémantique. Est-ce que ça veut dire qu'il a voulu montrer à son groupe qu'il était à fond avec lui? Est-ce qu'il a voulu montrer aussi à sa direction son autorité? Et est-ce que c'est une erreur d'avoir enlevé le brassard à Hojbjerg, qui faisait une bonne préparation, qui est un joueur évidemment expérimenté, pour au final le donner à Timothy Weah, qui va lui débuter sa deuxième saison à l'OM, s'il reste bien évidemment?
Alors, pour tes deux premières questions, je te dirais oui, mon capitaine. Il veut affirmer, il veut dire, il veut faire voir aussi que ok, la direction a pris cette décision, mais lui, tout ce qui rentre dans le vestiaire ne doit pas, pour moi et pour Bruno aussi, et je suis entièrement d'accord avec ses propos, avec son attitude et tout ça, ce n'est pas à la direction de prendre des décisions de vestiaire. Le capitanat, ça appartient au vestiaire. Qu'il ne la partage pas, il a parfaitement raison. Maintenant que on lui impose qui montre un peu son désaccord par rapport à ça, c'est ce qu'il a dit. Il a dit je suis pas d'accord avec ça. Je ne le cautionne pas de la manière dont c'était fait. Il a parfaitement raison parce qu'il a dit il y a des limites. Ces limites, il est en train aussi de les mettre. Un, de protéger son vestiaire. Pour répondre à ta première question et à ta deuxième, de dire à la direction, ok, vous l'avez fait une fois, mais arrêtez un petit peu, parce que le vestiaire, c'est moi qui gère. c'est moi qui doit le faire. Et puis ta troisième question, c'était oui, il protège ton groupe. Oui, pour moi, il protège son groupe avec cette décision-là, avec et c'est les victoires de toute façon, elles ne viendront que par le vestiaire. Ce ne sont pas, il faut que les dirigeants comprennent à Marseille une fois pour toutes que ce ne sont pas les dirigeants qui vont gagner sur le tapis vert. Ça, c'est pas possible. Moi, je suis à 300% avec Bruno Genesio, avec son staff, et puis avec les joueurs. Si je pense que c'est quelque chose qui aurait dû rester un peu plus en interne, être un peu plus habile, et que la direction n'aurait jamais dû communiquer aussi par rapport au capitana.
Flo, jusqu'à ce match amical face à l'Atlético de Madrid, la préparation
c'est pas
était.
C'est la direction qui a communiqué, hein, je tiens à le préciser, Lionel.
Je les ai vu réagir.
Oui, non, mais peut-être, mais après, on est journaliste et puis on a eu les infos, donc c'est pour ça aussi qu'ils ont dû réagir par rapport au fait qu'on avait sorti l'info que Ribière avait perdu le capitanat. Donc je ne sais pas comment ça serait passé si la direction aurait communiqué ou non, ou s'il y avait eu justement une prise de parole. Mais en tout cas, après, une fois que l'info sort, tu es un peu obligé de prendre les devants pour faire croire que tu maîtrises un petit peu le dossier. Mais moi, Karine, si je peux me permettre, je pense que Bruno Genesio, il aurait pu s'enlever une épine du pied, c'est ne jamais mettre le brassard à Ribert. Parce qu'il ne le mérite pas, tout simplement. Il a fait une saison qui était pas du tout à la hauteur de, pour moi, son niveau, justement, tu disais, son expérience, son leadership peut-être. Il n'a pas été exemplaire non plus dans le comportement également la saison passée, hein, en interne. C'était à peu près le cas de tout le monde, cela dit. Hein, Hubert a parfois pas montré le visage qu'on attend d'un joueur qui a aussi le salaire qu'il a, qui, alors évidemment, il a braqué personne entre guillemets pour l'avoir, hein. Ça, c'est de la faute des dirigeants, mais je veux dire, Hubert capitaine, pour moi, ça collait pas par rapport à la saison passée. Alors après, Bruno Genesio, lui, il arrive, peut-être qu'il veut faire table rase de tout ce qui s'est passé les 12 mois derniers, mais malgré tout, pour moi, ça collait pas. Et après, ça a été tellement. Je ne veux pas prendre la défense de Franck McCourt ou de la direction, mais puisque tu nous demandes aussi notre avis, je vais le donner avec sincérité. Je pense que c'est tellement annoncé et tellement une priorité, et c'est même peut-être vital pour l'OM. Qu'il y ait des départs, notamment de ceux qui ont un gros salaire. Et Hubert, c'est le cas, il est dans les 2-3 plus gros salaires du club. Que je veux bien comprendre la frustration de la direction quand il y a 15 millions sur la table pour Hubert par Newcastle, et surtout la possibilité d'alléger la masse salariale. Donc après, est-ce que effectivement c'est s'immiscer dans le sportif de dire on retire le brassard? Oui, enfin, ça c'est une vérité, et Bruno Genesio, il n'avait pas d'autre choix que de réagir de cette manière-là en disant écoutez, moi je suis pas d'accord, parce que sinon il perd son vestiaire, il perd son joueur, il perd Ribéry. S'il reste, il a besoin de sentir que son coach est avec lui. Mais si vous voulez, je faut pas non plus être c'est pas le monde des bisounours. Il y a un enjeu majeur financier. Il y a un club qui était pas loin d'être relégué en Ligue 2 s'il n'y avait pas eu un apport à nouveau de Franck McCourt. Donc en fait, en coulisses, la situation elle est grave, et les joueurs ils le savent, et les joueurs ils ont aussi fauté la saison passée. C'est pas uniquement les méchants De Zerbi, Longoria et Benatia. Les joueurs, à un moment donné, ils ont aussi leur responsabilité, et Hubert le premier, qui était l'un des capitaines, ou au final de la saison le capitaine.
Ouais, mais Flo...
Donc moi je veux bien comprendre les deux positions. Je vais pas jeter la pierre sur la direction de s'être un peu vexé, et du coup d'avoir pris cette décision de retirer le brassard et de l'imposer quelque part à Bruno Genesio.
Moi, quelque part, qu'il soit vexé, j'essaie de trouver le contre-pied, hein, Flo, mais pour moi qu'il soit vexé parce que Hojbjerg ne veut pas aller à Newcastle. Mais qui a fait signer un contrat à longue durée à Hojbjerg? Ce sont bien les dirigeants.
Ouais, bien sûr,
ils étaient tous d'accord.
Deux, et le salaire aussi, on lui a donné.
Le salaire, c'est la même chose. S'immiscer dans le pour moi, c'est jamais ça ne doit arriver. S'immiscer dans le sportif, jamais ça ne doit arriver. Mais surtout, il n'y a pas que le sportif, il y a aussi la vie du joueur. La vie du joueur. Je comprends bien qu'il voudrait, Marc Court, que ces joueurs se sacrifient aujourd'hui pour ramener 15 millions, 20 millions. Il voudrait ça. Mais tu ne sacrifies pas en tant que joueur ta vie aussi, ton futur, si tu n'as pas envie d'aller dans un club parce que tu ne sens pas le truc, parce que y a aussi une vie de famille, il y a aussi tout ça. Le joueur était très bien à Marseille, il se sentait très bien, il s'est plus
et
ou moins investi.
Et les conditions aussi, pour aller dans ton sens, parce que je suis pas radical dans...
Non,
je ne veux pas non plus pointer du doigt Hubert, mais les conditions aussi dans lesquelles se font cet été les négociations en vue de certains départs, effectivement la Unique Sport, l'agence anglaise qui a été contractée par l'équipe de Franck McCourt pour justement gérer la plupart des départs, tout ça, ça fait et ça crée quelques crispations parce qu'en fait les joueurs se sentent un peu devant le fait
accompli. Presque obligé d'y aller, mais non.
Pierre-Emile, il y a Newcastle, c'est 15 millions, c'est irrefusable, il faut y aller. Ouais, mais sauf que Pierre-Emile Rugger, il a envie d'Italie, notamment. Enfin, lui, son souhait, c'est plutôt de jouer en Italie. Donc, effectivement, c'était pas son idée première d'aller en Angleterre, et encore moins à Newcastle.
Il est là, le souci aussi. C'est la vie des joueurs, c'est la vie, c'est tout un futur, c'est une envie. Il va pas signer dans un club pour se perdre et tout perdre derrière. Je comprends pas.
Oui, mais là, on parle que du Brassard. C'est à la limite, c'est presque symbolique.
Oui, mais pourquoi
personne n'a mis Højbjerg dans un loft, personne ne l'a mis de côté. De toute façon, l'OM ne peut pas se permettre de le faire. Pour moi, le Brassard est presque symbolique. Et si vous voulez, quand l'aspect financier, quand l'enjeu financier est aussi important, avec une situation qui est grave, que le capitaine soit un joueur qui quelque part ne prenne peut-être pas à 100% conscience de cela ou ferme les yeux parce que il a lui aussi ses intérêts perso et sa carrière à mener, ok, mais symboliquement pour moi ça clochait qu'il reste capitaine et de toute façon je l'ai dit avec franchise pour moi il ne méritait pas de l'être par rapport à la saison passée.
Et donc, c'est Timothy Weah, donc
l'oublier. Voilà.
Capitaine de l'OM à 26 ans. On accueille Ozan, messieurs supporters marseillais au 32-16 sur RMC qui nous a appelé. Bonsoir Ozan.
Bonsoir tout le monde.
Ozan, la saison commence, t'es supporter de l'OM, tu dois être évidemment excité et surtout où t'as envie d'oublier ce qui s'est passé l'an passé. Première question, ton avis sur le capitanat, parce qu'on vient d'en débattre.
Ça doit être le choix du coach en fait. Si le coach a décidé de base de mettre Oliver capitaine, c'est qu'il a ses raisons. Je vois pas pourquoi la direction vient ramener son voilà qui veulent se mêler du capitaine en disant que non, on veut pas que ce soit lui, on veut que ce soit quelqu'un d'autre, etc. C'est le coach qui doit décider. C'est le coach qui a son mot à dire sur ça. La direction qui reste un petit peu en retrait, qui laisse faire le coach. À un moment donné, c'est tout ce qu'on veut quoi.
Donc toi, tu oublies par exemple la saison passée qui a été une saison ratée du côté d'Højbjerg par rapport à ce que disait Flo.
C'est vrai qu'Højbjerg...
Oui, non mais d'accord. Mais sauf qu'il faut Timothy Weah, non, l'a pas raté pour le coup. Et il se retrouve avec le capitaine. Mais est-ce que, par rapport à ce que dit Flo, le fait que, vu que la saison du Danois a été mauvaise, tu te dis pas, c'est quand même logique que derrière, le nouvel entraîneur choisisse un autre joueur?
Non, pas forcément. Tu regardes en fonction du joueur, tu regardes en fonction du calibre du joueur, tu regardes en fonction de l'impact que le joueur a dans le vestiaire. Nous, on n'est pas avec eux tout le temps, on n'est pas avec les Marseillais à chaque fois. Si Genesio, il a dit, moi je veux qu'Oliver soit capitaine, c'est qu'il a ses raisons, c'est que dans le vestiaire, il sent que c'est un homme fort, que c'est lui qui peut mobiliser les troupes, c'est lui qui ouvre sa bouche dans le vestiaire quand ça va pas. Donc, c'est lui qui prend la décision et on oublie ce qui s'est passé la saison passée, on oublie. C'est une nouvelle saison qui commence. On prend les mêmes et on recommence à part quelques départs. Le type, il est là depuis sa troisième saison, je crois.
Troisième
saison. Donc, il est totalement apte à être capitaine. Si Genesio l'a choisi, c'est qu'il a ses raisons. Et moi, je ne vais pas contester le choix de l'entraîneur. Moi, ce que je conteste, c'est le choix de la direction qui vient, encore une fois, vouloir décider de qui va être capitaine ou de dire à Genesio, non, moi, je veux que ce soit lui. Voilà. Tu commences une saison en fait en décrédibilisant les choix du coach.
Très bien, Ozan.
Elle n'a pas commencé.
On a été ravis de t'avoir avec nous sur RMC. Un petit pronom peut-être avant le match.
Ça va être un bon match. Franchement, cette saison-là, je commence à être de plus en plus optimiste, malgré le fait qu'il n'y ait aucune recrue, qu'il y a eu beaucoup de départs. Je vais rester optimiste avec Genesio.
Bon, ben on te souhaite une belle saison, mais tu m'as toujours pas donné ton prono par contre. Hein.
Victoire, victoire de l'OM, un bon 2-0 à la maison pour bien commencer.
Ok, merci beaucoup Ozan. Très belle saison à toi. On rappelle le lancement de la saison de Ligue 1, c'est ce soir avec Marseille Strasbourg. Rapidement messieurs, vous nous rappelez les compos?
Avec grand plaisir du côté de l'OM, Geoffrey Delangue dans le but, la défense avec à droite Timothy Weah, à gauche Emerson Palmieri. En charnière centrale, on va trouver Geoffrey Kondogbia qui va reculer d'un cran assez souvent a priori avec Bruno Genesio, lui le milieu de terrain de formation, aux côtés de CJ Egan Riley. Au milieu de terrain, Pierre-Emile Heubière, Imad Abdelli et Angel Gomez, et le trio offensif avec Amine Gouiri entouré de Amin Harit et évidemment de Igor Paichao.
Et du côté strasbourgeois, la première compo pour Hugo Oliveira, avec dans les buts Philippe Jorgensen, arrière droit dans ce 4-2-3-1, Genesis Antwi, les deux joueurs prêtés par Chelsea, titularisés pour cette première journée. La défense se compose également d'une charnière avec Omo Bamidele et Oxberg. Guéladoué va évoluer au poste de latéral gauche ce soir devant cette défense. Un tandem au milieu à la récupération avec Samir El Mourabet et Diogo Souza, une autre, la troisième recrue présente dans ce 11 de départ ce soir côté strasbourgeois. Au milieu de terrain, trois offensives, Sébastien Nanasi et Amo Ameyo associé à Guessim Yassine dans les couloirs en soutien de Sekou Mara. On rappelle que Joaquin Panicelli s'est fait les croisés au mois de mars et sur la phase de reprise imminente.
Merci beaucoup messieurs, vous avez toutes les informations. On parie sur ce match.
Winamax, le plus important, c'est de gagner. C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax.
Bonsoir Christophe Péné.
Bonsoir Karine Galli. Bonsoir Lionel, bonsoir à tous.
C'est le retour de Bingo Colombo.
J'allais dire.
Marseille favori à la maison.
Oui, effectivement, 1,70 la victoire des Phocéens, 80 le match nul, 4,10 la victoire de Strasbourg. Je vois Marseille s'imposer. L'OM plus Gouiri, c'est 2,75. De 2-0 dont parlait l'auditeur, c'est 8,50. J'aime bien. Et on peut se couvrir avec Marseille qui ne perd pas et les deux équipes qui marquent, c'est coté à 1,80.
Moi je vais sur 2-1 pour l'OM avec but de Paichao.
Alors le 2-1 mon cher Lionel est à 7,25. Si tu rajoutes le but de Paichao qui est à 2,25, tu es à 13 effectivement.
Ah, tu vois,
il a bien fait ses devoirs de vacances.
Magnifique, on prend.
Winamax, le plus important, c'est de gagner. C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Troisième journée de Ligue 2 ce soir. Ça joue sur 5 pelouses. On est avec Corentin Roland. On s'approche des 40 minutes de jeu.
Oui, un petit multiplex pour le moment. Deux buts seulement. Le premier du Red Star qui mène 1-0 sur la pelouse de Boulogne. Et le deuxième inscrit par Sochaux. Le premier but pour le retour en Ligue 2 des Sochaliens. Sochaux mène 1-0 face à Guingamp. Pour le reste, 0-0 entre Clermont et Dijon, 0-0 entre Dunkerque et Montpellier, même score entre Pau et Nancy. On est à 5 minutes de la pause.